Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'histoire. Pour cela nous avons avec nous Patrick Lewellin, avec qui nous sommes en liaison depuis Trouville en Normandie. Bonjour Patrick.
Bonjour Grégory.
Alors Patrick, vous êtes historien amateur, vous passez beaucoup de temps dans des bibliothèques, dans des salles d'archives pour retrouver des documents perdus ou parfois oubliés. Et justement, tout récemment, vous avez mis la main sur une carte que personne n'avait jamais vue, dont personne n'avait connaissance, en tout cas en Australie, qui remonte aux origines de la colonisation du pays par les Britanniques. Et à un moment vraiment clé dans le début de cette histoire européenne en Australie, c'est la cartographie du continent par deux explorateurs, d'un côté l'anglais Matthew Flinders et de l'autre Nicolas Baudin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la carte sur laquelle vous avez mis la main ?
Alors, c'est une carte sur laquelle j'ai mis la main dessus dans mes recherches sur Baudin à la Bibliothèque nationale de France. C'était en 2015 déjà. C'est une carte qui a été apportée en Australie en 1911, au moment de la création de Canberra, par le comte Alphonse de Fleurieu. Et le comte Alphonse de Fleurieux était le descendant de l'organisateur des expéditions d'Entrecasteaux et de Baudin. Donc Baudin, c'est 1800-1804, une expédition géographique envoyée en Australie par Bonaparte.
Ouais.
À l'époque.
Fleurieux, d'ailleurs, précisons qu'il y a en Australie une péninsule Fleurieux qui est nommée en hommage à ce monsieur. Donc.
Et justement, cette péninsule apparaît sur cette carte. C'est un retour au nom français à la place d'un nom anglais qui a été accordé en 1911 à Fleurieux et donc à la France. Alors pourquoi Fleurieux est-il venu avec cette carte ? Eh bien, il est venu parce qu'il voulait faire rétablir un certain nombre de noms français, c'est-à-dire des endroits qui avaient été découverts par l'expédition Baudin en Australie du Sud et en Victoria, et donc qui avaient été effacés parce que quand l'expédition Baudin est rentrée, le capitaine Baudin étant mort, ses subordonnés ont évidemment dessiné la carte de l'Australie. C'est d'ailleurs la toute première carte complète des côtes de l'Australie qui a été publiée. Elle n'a pas été publiée en Angleterre, elle a été publiée en France en 1811, donc en plein Empire français. Mais les dessinateurs, donc Freycinet pour l'officier, se sont permis de donner des noms dont français à des endroits qu'ils n'avaient pas découvert les premiers. C'était Matthew Flinders, commandant de l'expédition britannique au même moment, qui était passé le premier et qui donc avait le droit de donner des noms anglais. Le problème, c'est que Freycinet, en dessinant cette carte de 1811, s'est permis d'appeler toutes les terres qui vont depuis le golfe de Spencer jusqu'à aujourd'hui Melbourne à peu près, terre Napoléon. Vous imaginez la tête des Anglais en 1811, en pleine guerre napoléonienne. Donc comme nous avons perdu la guerre, bien entendu, en fait toute la nomenclature française a été éliminée et remplacée par une nomenclature anglaise. Fleurieux, en 1911, profitant du fait que la création de Canberra allait nécessiter une refonte des cartes australiennes, est venu en demandant « Attendez, il y a quelques noms qui, objectivement et scientifiquement, doivent revenir à la France. » Donc il est revenu avec sa carte, corrigée à la main en rouge, et il a obtenu un certain nombre de noms retour à la France, dont celui que vous venez de citer, la péninsule Fleurieux. Voilà. Et donc c'est cette carte, et ses papiers, ses lettres, sa correspondance, il est allé en Australie en 1911, il est rentré en 1913, il a fait une communication à la société de géographie auquel il appartenait, et ensuite il a versé ses cartes aux archives, et elles ont été totalement oubliées depuis, et quand je le dis, je l'ai vérifié, puisque j'ai demandé à la National Library of Australia s'il connaissait la carte, et on m'a répondu, elle est totalement inconnue. On connaît l'histoire de Fleurieux qui est passée, mais nous n'avons connaissance ni de la carte, ni de ses papiers. Voilà.
D'accord, et du coup, vous, en tant que découvreur, ou plutôt redécouvreur de cette carte, les autorités australiennes auxquelles vous avez eu affaire qui vous disent « cette carte, on l'avait complètement oubliée, et on savait à peine d'ailleurs qu'elle avait existé », est-ce qu'ils ont, j'imagine, manifesté un intérêt ? Est-ce qu'ils souhaiteraient en avoir au moins une copie, ou peut-être même l'exemplaire original, pour la mettre dans un musée ? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer suite à cette découverte ?
Alors, un intérêt certain, parce que l'expédition Baudin, historiquement parlant, est extrêmement importante pour l'histoire de l'Australie, et cette histoire de nomenclature entre les Français et les Anglais a duré très longtemps. Les expéditions françaises après les guerres napoléoniennes, je ne sais pas si vous le savez, se sont poursuivies avec l'intention du gouvernement français, donc de la restauration, hein, de Louis XVIII et de Charles X après Napoléon, avaient l'intention de créer une colonie pénitentiaire à l'ouest, dans la région d'Albanie aujourd'hui, à King George Sound. Ça a duré jusqu'en 1824-26. Donc vous voyez que ça a continué. Et cette carte est l'ultime avatar, en fait, l'ultime péripétie des 8 expéditions scientifiques françaises qui se sont succédées en Australie entre 1772 et 1826. Donc elle est importante historiquement, évidemment. Eh bien, il faut qu'on l'étudie de façon systématique, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vais faire ici et en collaboration avec la Bibliothèque nationale australienne. Et ensuite, en 2023-2024, je vais venir en Australie. On va montrer cette carte. Alors, je ne sais pas encore si on montrera une copie grandeur nature ou la carte originale, parce qu'il n'en existe qu'une, et la faire sortir de la Bibliothèque nationale de France, l'emmener en Australie, la faire tourner pendant 6 mois, etc. C'est un petit peu compliqué, mais on va essayer quand même. Et on va la montrer, on va montrer ce qui s'est passé en la mettant pour le grand public à côté des cartes qui ont été dessinées par les Français, qui ont été dessinées par Flinders, et celle qui a été qui est devenue finalement la carte officielle de l'Australie à partir de 1811. Et on va raconter toute cette histoire.
Je reviens par rapport à cette question de la correction de certains noms sur la carte officielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous citiez notamment le cas tout à l'heure de la péninsule Fleurieu. Par rapport à cette carte avec, effectivement, vous m'avez envoyé une copie. Il y a des ratures en rouge et puis des noms à la place écrits par-dessus. Est-ce que toutes les consignes, les indications indiquées par les Français sur cette carte ont été suivies par les autorités australiennes, ou est-ce qu'il y a quelques noms que les Australiens ont dit, bah non, on va garder le nom anglais, ça on n'accepte pas? Ou est-ce que tout a été pris en compte?
Alors, tout a été examiné, tout n'a pas été obtenu. Effectivement, vous avez raison. En fait, dans la carte que nous montrerons quand nous viendrons en Australie, le fond, c'est la carte officielle de l'époque, de 1910, c'est-à-dire celle qui est fondée sur l'expédition Flinders. En rouge, Fleurieu avait marqué à la main les noms dont il estimait que ça revenait à Baudin, parce que Baudin était passé le premier. Et ça, c'est fondé sur une carte française de 1824. Et ensuite, si on regarde bien, il a souligné en noir, sur ces rouges-là, il y a des rouges soulignés en noir, qui sont celles dont il se disait qu'il avait une chance d'obtenir le retour. Et c'est une partie seulement de ces noms qui ont été demandés qui sont revenus à une nomenclature française. Mais justement, pour l'instant, personne ne sait exactement lesquels. Et c'est fait partie du but du jeu des études qu'on va faire de façon systématique, c'est-à-dire qu'on va vérifier effectivement lesquels ont été attribués suite à la visite d'Alphonse de Fleurieu, et donc lesquels, dans la carte d'aujourd'hui, sont issus de cette ultime correction cartographique des expéditions françaises de 1911-1913.
Précisons que pour la poursuite de ces recherches, je rappelle, vous êtes historien amateur, vous n'êtes donc pas salarié ou payé pour mener ce type de recherche, vous le faites parce que c'est votre passion et que, bah, évidemment, ça prend du temps et ça coûte aussi un petit peu d'argent, surtout s'il y a des déplacements de la France et l'Australie, et vous êtes à la recherche de sponsors pour financer tous ces travaux.
C'est exact. Les besoins financiers ne sont pas colossaux, mais enfin, ils existent quand même. Et donc nous recherchons, alors quand je dis nous, c'est que cette étude est faite par un volet français et un volet australien. Le volet français, c'est moi, c'est nous, c'est l'Institut Nicolas Baudin. Et côté australien, c'est le Silent World Foundation, qui est une fondation australienne de recherche archéologique maritime et de recherche tout court sur l'histoire des contacts entre Australiens et entre Européens et Aborigènes au début de l'histoire australienne, et de recherche sur les expéditions européennes en Australie. Ça, c'est le volet australien, donc on est tous les deux à travailler là-dessus. Et nous cherchons ensemble quelques sponsors de façon à ce qu'on puisse tranquillement mener à bien cette étude, qui est une étude à plein temps pendant un an quand même, hein, et effectivement les déplacements qui seront nécessaires pour venir montrer tout ça en Australie l'année prochaine, si tout va bien. Et donc, ce que nous visons, ce sont évidemment des sociétés australiennes qui s'intéressent à la France ou qui ont des intérêts français, et des entreprises françaises qui ont des intérêts en Australie.
Très bien. Alors, on va faire un sacré saut dans le temps pour nous retrouver à la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous menez des recherches sur différentes périodes historiques. Et ces recherches vous ont conduit à réaliser qu'il y a au moins 10 Français qui étaient membres des forces françaises libres, donc engagés auprès du général de Gaulle dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont morts à Sydney, qui étaient à l'époque attaqués notamment par l'armée japonaise. D'ailleurs, en soi, c'est un fait peu connu, en tout cas peu connu par les Français et les Européens en général. On est un petit peu au courant qu'il y a eu des bombardements à Darwin, mais pas qu'il y a eu des combats jusque dans le sud du pays, à Sydney.
Oui, c'est exact. Ça, encore, comme pour la carte de Bonin, j'ai découvert ça tout à fait par hasard. D'ailleurs, on m'a averti un jour que dans le cimetière de Rookwood, près de Sydney, on avait réhabilité la tombe d'un ancien marin des forces françaises libres, qui était parfaitement remise en état, mais le corps n'était plus là. Et on savait qu'il avait été rapatrié en France, mais on n'en savait rien d'autre. Et on m'avait demandé si je pouvais retrouver la dernière sépulture de ce marin, de cet officier marinier, et puis quels documents on pouvait retrouver, sachant qu'il y avait déjà un certain nombre de documents qui avaient été conservés dans les archives australiennes. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pu découvrir que 10 marins de la France libre étaient effectivement morts en Australie ou autour de l'Australie. Alors pourquoi des marins ? Il n'y a pas eu d'engagement de Français du côté de Darwin au moment où les Japonais menaçaient Darwin, mais bien évidemment, les marins essayaient d'occuper l'océan Indien entre, et l'océan Pacifique, et notamment entre la Nouvelle-Calédonie qui était passée du côté de la France libre et l'Australie. Ce qui est pour ça qu'il y avait des navires de guerre français de la France libre qui régulièrement accostaient à Sydney. Et 10 marins sont morts, soit dans Sydney au moment où le bateau était là, soit en mer, torpillé par les Japonais par exemple, un des officiers. Comme ça, j'en ai retrouvé 10. Donc morts pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai retrouvé aussi d'autres qui sont morts plus tard en Australie, c'est-à-dire qu'après avoir servi dans les environs, ils se sont installés à Sydney, mais ce n'est pas sur eux que je fais des recherches en ce moment. Donc, de fil en aiguille, on a retrouvé complètement le premier, donc on sait tout sur lui. Nous avons retrouvé la trace de au moins 2 autres, et nous allons continuer ainsi de suite, jusqu'à avoir retrouvé tout ce qu'on peut savoir sur ces 10 marins, c'est-à-dire quand ils étaient enterrés en Australie, de quoi sont-ils morts très exactement, retrouver les documents comme les enquêtes du coroner, les actes de décès, etc., retrouver leur dernière sépulture en France, si on peut retrouver la famille, et c'est un véritable, c'est presque un cold case, il y a quelque chose de roman policier, parce qu'il faut chercher vraiment partout. Vous imaginez, la plupart des corps ont été ramenés avant les années 50. Nous préparons également peut-être une cérémonie ou quelque chose avec les maires français des différentes communes où reposent pour la dernière fois ces hommes. De fil en aiguille, nous menons ces recherches. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y en a un complètement retrouvé, un deuxième pratiquement, il me manque un ou deux documents. 2 autres, on est bien partis. Et on va continuer comme ça, ça va prendre quand même 2-3 ans au minimum, de façon à écrire cette histoire, écrire l'histoire de leur bateau, parce que généralement c'est très intéressant. On trouve des choses comme un ancien cargo bananier transformé en croiseur, vous imaginez, ça donne une petite idée des moyens dérisoires qu'avaient les forces françaises libres au début de la guerre, pour aller se battre dans le Pacifique, et ailleurs d'ailleurs. Il y en a qui sont morts dans un incendie, il y en a un qui a été assassiné. Donc il va falloir retrouver l'enquête du coroner. Il y a 2 bateaux qui sont célèbres dans l'histoire des forces françaises libres, et donc nous allons retrouver tout ça, le mettre en forme, en faire un livre et le publier et en France et en Australie, et qui sait, peut-être encore une fois je pourrais faire une deuxième tournée de conférences pour venir parler de tout ça en Australie, en sachant que un personnage français a laissé des traces importante et très positive dans l'histoire australienne, c'était le représentant justement du général de Gaulle en Australie pendant la guerre, qui a été visible et qui s'est bien démené quand même.
Alors, sur ces 10 marins, vous nous expliquez, donc vous êtes toujours sur la piste de certains d'entre eux, il y en a un au moins, vous le disiez au tout début, que en gros, il a une tombe dans un cimetière proche de Sydney, mais que son corps a été déplacé en 1949. Vous avez retrouvé la tombe sous laquelle il est véritablement enterré. Il se trouve qu'elle est en Bretagne. Vous avez expliqué également les liens de l'Australie avec la France pendant la guerre. En gros, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a rallié la France libre et qui, du coup, est devenue alliée de l'Australie. Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que, a priori, un Breton s'est retrouvé au combat à Sydney ? Est-ce qu'il était détaché en Nouvelle-Calédonie ou peut-être à l'époque au Vanuatu, les Nouvelles Hébrides, qui étaient également encore à l'époque française? Comment il s'est retrouvé là et comment ces soldats se sont retrouvés là de manière générale?
En fait, ce sont leurs bateaux qui se sont retrouvés là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont engagés dans les forces françaises libres très tôt. Tous ceux que j'ai retrouvés se sont engagés, donc j'ai retrouvé l'ensemble de leur dossier militaire et de leur dossier forces françaises libres, puisque les forces françaises libres, c'est assez particulier en France, vous savez que c'est pratiquement sacro-saint, et donc ils ont leurs propres archives, la fondation, etc. Et ça nous permet d'avoir l'ensemble de leur historique militaire, donc la date d'engagement, les navires sur lesquels ils ont servi. Et en fait, ce sont ces navires qui, la plupart du temps, ont été saisis soit aux Caraïbes, soit saisis par les Anglais et rendus à la France au tout début de la guerre. Et ce sont ensuite ces bateaux qui ont reçu comme affectation le Pacifique et l'océan Indien, généralement la Nouvelle-Calédonie. Pas toujours, mais généralement la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ainsi que, donc, ils ont traversé, ils sont passés par le Cap, hein, ils ont traversé l'océan Indien, ils sont arrivés jusqu'en Australie, puis... ils ont fait généralement des allers-retours entre la Calédonie et l'Australie. Certains sont allés plus loin. C'est ainsi que l'un de ces hommes, sur son bateau de guerre, a été torpillé. L'officier qui était engagé FFL est mort en mer. Lui, on ne retrouvera bien entendu jamais sa tombe. Et les autres sont pour la plupart décédés au moment de l'escale du bateau en Australie, la plupart du temps à Sydney.
D'accord, bah écoutez, merci, c'est vraiment passionnant. On vous souhaite bon courage pour la suite de vos recherches et on a hâte de lire ce livre donc, que vous prévoyez d'écrire à ce sujet. Vous nous tiendrez au courant quand il sera publié pour qu'on puisse s'en procurer une copie.
Absolument. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des découvertes.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup encore Patrick Llewellyn pour toutes ces histoires et bon courage dans la suite de vos travaux. Merci.
Merci infiniment. Au revoir.